Welcome to the 5 to 6 p.m. on the CLTV Radio Network, presented by Maureen Wanzi-Wilai and Larissa Engano. Our top stories.
L'avenir du cartel pétrolier et gazier africain se dessine à Yaoundé. Déjà dans le pipe, une banque africaine de l'énergie. Le conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africain médite l'opérationnalisation de l'institution dans le 17-18, le focus du jour.
Prime Minister Joseph Dion Goute has commended the African Petroleum Producers Organization, APO, for creating an energy bank that will fund oil and gas projects on the continent. He saluted the move today in Yaoundé while opening the 46th session of the Council of Ministers of APO at the behest of President Paul Biya. Focus of the day examines Africa's contribution to the production of petroleum products in the global marketplace and the role played by APO.
En sport, volleyball, carton plein pour les dames de l'Ito Team de Douala, vainqueur du tournoi Zone 4 à Brazzaville. La finale, messieurs, oppose en ce moment Port Volleyball du Cameroun à l'équipe de la garde républicaine de la RDC. À suivre également des échos de la visite de travail du ministre des Sports dans la région de l'Est et les rendez-vous majeurs du football camerounais en ce mois de novembre. C'est un agenda que nous feuilleterons vers la fin de ce journal. Voilà pour les titres.
The 5 to 6 p.m. is 16 minutes of news and information about major happenings in the nation. Focus of the day. Sports, world news, in-depth report, investigative news report, the interview, the 5 to 6 p.m. guest, and much more on the radio network of the CRTV.
Merci de nous renouveler votre confiance. Nous ouvrons ce journal par des nouvelles du Palais de l'Unité. Le chef de l'État, le président Paul Biya, vient de recevoir en audience le haut commissaire du Gabon en fin de séjour au Cameroun. Paul Patrick Biffo, qui aura par ailleurs été doyen du corps diplomatique, quitte Yaoundé après 11 ans comme chef de mission diplomatique gabonaise au Cameroun. Compte rendu d'audience, Dieudonné Oumba.
Près d'une heure d'échange au Palais de l'Unité entre le chef de l'État, le président Paul Biya, et Paul Patrick Biffo, haut commissaire de la République gabonaise, en fin de séjour au Cameroun. Le temps de cette audience n'a dû en dire long sur le séjour du diplomate gabonais au Cameroun. Un séjour assez long. Sa connaissance des dossiers et la qualité de la coopération entre Yaoundé et Libreville. En 11 ans en terre camerounaise, l'une des images que... En 11 ans donc, en terre camerounaise, comme chef de la mission diplomatique gabonaise, Paul Patrick Biffo aura été témoin, sinon l'un des acteurs clés dans la relation camerouno-gabonaise ces derniers temps. Bien au-delà, sa longévité au Cameroun a fait du diplomate gabonais le doyen du corps diplomatique, et ce, 7 ans durant. 7 ans pendant lesquels il aura porté la voix, mais également les oreilles du corps diplomatique accrédité à Yaoundé. L'une des images fortes qui le traduisent, la cérémonie des vœux du corps diplomatique à chaque début d'année au président de la République. En ce vendredi 1er novembre 2024, lors de ce dernier entretien avec le président de la République, le diplomate gabonais en fin de séjour au Cameroun aura ressassé tous ses grands moments avec le chef de l'État, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Le diplomate gabonais n'en est pas moins fier. Accueilli par le chef du protocole d'État, Simon-Pierre Bikele, et rejoint au perron du Palais de l'Unité par le ministre Samuel Mbondoyolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Paul Patrick Biffo aura eu droit aux derniers honneurs au Palais de l'Unité. Jet d'eau et une haie d'honneur de la garde présidentielle. Le diplomate gabonais n'est pas parti les mains vides puisque le président Paul Biya, fidèle à son hospitalité et à ses largesses, lui a gracieusement offert une œuvre d'art.
Thank you very much, Dieudonné Oumba, just from the Unity Palace. And from the Unity Palace to the Star Building, where Prime Minister, Head of Government, has reaffirmed that Cameroon will continue supporting the activities of the African Petroleum Producers Organization, APO. Joseph Dion Goute was speaking in Yaoundé today, where he represented the President of the Republic at the opening ceremony of the 46th session of the Council of Ministers of the organization, petroleum ministers from 18 members States of the body are meeting in Yaoundé to evaluate strategies aimed at enhancing the sustainable exploitation of fossil fuel in Africa. During the opening ceremony of the 46th session of the Council of Ministers of the African Petroleum Production Organization, the Prime Minister Joseph John Gute hailed the idea of the African Energy Bank as a huge step towards the development of petroleum exploitation in Africa. Here is an excerpt of his opening statement proposed by Christian Chiatam.
We therefore welcome the decision of the Council of Ministers to explore the possibility of setting up an African Energy Bank. Although a great deal of work still needs to be done before the bank can effectively start its activities, it is undeniable that it will be a fundamental lever for the finalization of future oil projects in African countries. In any case, I can assure you, on behalf of the President of the Republic, Head of State, His Excellency Paul Biya, that Cameroon will continue to attach particular importance to achieving the objectives of the APO by always fulfilling its obligation. As prescribed by President Paul Biya, the relentless architect of regional integration, it is imperative to push our common hydrocarbons ideals to new heights. Also, under his very high impetus, his effective involvement, and his decisive decision and action, Cameroon has never spared any effort to make this ideal a reality. This was demonstrated more than 20 years ago with the Chad-Cameroon pipeline, one of the largest hydrocarbon integration projects in sub-Saharan Africa.
Joseph John Gute, le premier ministre chef du gouvernement, qui s'exprimait donc à l'ouverture de cette 46e session du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africain. Une note de satisfaction générale est perceptible à ces travaux en cours à Yaoundé. La coopération africaine dans le domaine des hydrocarbures s'apprête en effet à faire un bond en avant avec l'opérationnalisation en perspective d'une banque africaine. Toute chose qui devrait repositionner l'Afrique dans la sphère mondiale de production du pétrole. Une fois de plus, écoutons Joseph John Gute, le premier ministre chef du gouvernement, à ce sujet.
Je voudrais d'abord évoquer le nombre des pays membres, passé de 14 en 2008 à 18 aujourd'hui. C'est le lieu de se réjouir de l'intérêt supra-africain qui a poussé le Venezuela, pays d'Amérique du Sud, possédant des plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, à faire son entrée dans notre organisation comme membre honoraire. C'est dire que la peau a bien sa place, une place du reste privilégiée dans le dispositif de la coopération inter-État en Afrique. Excellences, mesdames et messieurs, la 46e session du Conseil des ministres de la PO intervient dans un contexte particulier, marqué d'une part par les exigences environnementales prônant le développement d'autres sources d'énergie et d'autre part par la volonté de nos États de trouver des solutions endogènes pour vaincre la pauvreté et promouvoir le bien-être de nos populations. Il est constant que l'une des solutions endogènes se trouve dans la bonne exploitation des ressources naturelles de nos pays, dans l'optique de faire face à la pauvreté énergétique dans laquelle se trouve notre continent. Il convient donc d'en appeler à l'innovation et à l'imagination créatrice des compagnies pétrolières et gazières pour limiter autant que faire se peut les effets néfastes de leurs activités sur l'environnement.
Il s'agit donc d'harmoniser les politiques énergétiques et de partager des connaissances techniques ainsi que de meilleures pratiques pour le développement durable de l'industrie pétrolière en Afrique. On en reparle tout à l'heure dans la partie magazine de ce journal. Ce sera dans le cadre du focus du jour. Et le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gute, prescrit par ailleurs au ministre des Arts et de la Culture d'engager des chantiers nécessaires à la mise en œuvre effective du nouveau cadre régissant les archives au Cameroun. C'était hier au conseil de cabinet du mois d'octobre. Retour sur les grandes recommandations issues de ces assises avec notre correspondante Laurentine Bocono.
La nouvelle loi régissant les archives au Cameroun ouvre une nouvelle ère dans la gestion du patrimoine national. En étroite collaboration avec les autres membres du gouvernement compétent, le ministre des Arts et de la Culture devrait conduire des diligences telles que l'élaboration des tests d'application de la loi et l'examen de la problématique relative à la constitution d'un cours compétent. Dans notre plan, le ministre des Postes et Télécommunications devrait jouer un rôle fondamental dans la mise en place des infrastructures de gestion de l'archivage électronique. Du ministre des Forêts et de la Faune, il est attendu un dispositif plus efficace de veille afin de s'assurer du respect sur le terrain des nouvelles dispositions contenues dans la loi. Jules Doré Ndongo.
La loi a pensé à accompagner le développement du pays, ce qui fait que certaines contraintes pour l'entrée en activité ont été levées. Je pense aux PEBO, les petits permis. Je pense également à des possibilités qui ont été données en termes de superficie au niveau de certaines ventes de coupe, au niveau de certains sites. Donc, pour ce qui est de la transformation, nous avons confirmé la position connue depuis la loi de 1994 relative à l'interdiction de l'exportation des bois sous forme de grumes. Mais nous allons la mettre en œuvre progressivement.
Le ministre de la Santé publique a été invité à son tour à poursuivre les initiatives visant à optimiser la préparation et la réponse aux urgences sanitaires identifiées ainsi que le renforcement du système d'alerte et de surveillance épidémiologique.
Globalement, pour l'heure, la situation épidémiologique est à la calmie. Comme le chef du gouvernement l'a reprécisé tout à l'heure, cela voudrait dire quand même que nous devons continuer à être en éveil, nous devons continuer à être vigilants parce que autour de nous, nous avons quelques risques, n'est-ce pas, d'importation d'épidémie.
Dans son propos introductif, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gauté, a prescrit la nécessité de s'approprier les tests récemment adoptés par le Parlement. La gestion des archives constitue à cet effet un enjeu essentiel pour appréhender le passé, comprendre le présent et construire un avenir éclairé, a indiqué le chef du gouvernement pour qui les archives sont un outil précieux pour la recherche, l'éducation, la justice, la culture et la sauvegarde du patrimoine national. Immeuble Étoile, Laurentine Bocono, CR TV.
The Prime Minister, Head of Government Joseph Dion Gauté, has invited the Minister of Culture and his counterpart of Forestry and Wildlife to accelerate the process of drafting enabling instruments for the law of July 2024 on the management of archives and the forest. This was the main recommendation of the cabinet meeting for the month of October, which took place yesterday. Starbuddin correspondent Christian Chatham revisits the highlights and recommendations of the meeting.
The cabinet meeting for the month of October was a platform for members of government to explore the contours of the law of July 24, 2024 on the management of archives in Cameroon, a law which opens fresh perspectives in the management of archives. Bidum Pat, Minister of Arts and Culture.
There is compulsory means for specialized training programs and certification for archivists, which will ensure that professionals in the sector have the qualifications and skills they need to manage archive services effectively. Finally, offenses relating to archive management, such as the illegal destruction, misappropriation, or mismanagement of documents, are now severely punished, both for public officials and other public bodies and for private sectors organizations.
However, huge investments in equipment, recruitment, and training of personnel are required if the laws are to produce expected results, both concerning the management of archives and forests. That is why the main recommendation made by the Prime Minister was for the Minister of Arts and Culture, Bidum Pat, and the Minister of Forestry and Wildlife, Jules Dorin Ndongo, to accelerate the process of drawing up implementation texts, which will open the way for the full implementation of the law. Joseph Dion Gauté equally tasked the two ministers to organize awareness campaigns in order to educate stakeholders about the changes brought about by the law of July 2024. Christian Cheatham, CRTV, The Star Building.
And from the Star Building to the Adamawa region, where the customs sector, through the operation dubbed Halkomi 3 Zone 3, has impounded 3,144 rounds of ammunition destined for unauthorized distribution. The ammunitions were impounded in a public transport bus at the entrance of Ngaunderi from Marwa after a tip-off that helped authorities. The individual transporting the pack has been arrested and is exploited by elements of the Adamawa military security. Elis Wajibanmia.
In a significant operation to combat illegal arms trade in the Adamawa, elements of the customs sector stationed at Chabal succeeded in uncovering and stopping an illicit scheme of distributing over 3,000 unauthorized ammunition within the country.
Commandant Soon, the custom unit in Ngaunderi, in the morning of last Monday, we had information which was forwarded by the Zone 3 coordinator of Halkomi, and we carried out systematic search. We fell into this great seizure. There are more than 3,000 bullets. The culprit went into the bush running. We were able to get the guy from the bush, who was handed to the regional seminal center.
Authorities have emphasized the seriousness of the operation, noting that the successful interception of these munitions helps protect communities from potential violence and crime.
We are going to hand the core of the Delhi to the seminal, the competent authorities, for further investigation, and after that we are going to carry out what we call contention, because the car that was carrying these illegal stuff has been pounded here in the Adamawa customs sector.
The customs department, in collaboration with other elements of the defense forces, is continuing its investigation to determine the origin of the ammunition and any broader networks involved in this illicit activity. Alice Wajibanya, CRTV News, Ngaunderi.
The Minister of Finance, Ripple Motaze, has issued a press release saluting the customs officers for the exploit that led to the arrest of the man alleged to be moving the ammunitions from Marwa destined for Yaoundé. Speaking earlier on the CRTV, the Director General of Customs, Edwin Fungat Nuvaga, saluted the decision of the head of state and said the paramilitary nature of the Cameroon Customs Department has rendered the officers more efficient in their dual mission. Hear him in an excerpt of an interview selected by Albert Njembande.
In 2020, the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, integrated us into the large family of administrations in charge of defense and security. And of course, this has led to our systematic participation in security meetings throughout the national territory. And this has given us a clear vision and foresight into strategies hitherto unknown to us. And of course, that has helped us greatly in enhancing our work on the field. Now, my field collaborators, thanks to this synergy of defense and security forces, have doubled our seizure rates in illegal gold, endangered species, goods that infringe property rights, cocaine, cannabis, and other hard drugs, as well as goods that are dangerous to the health of Cameroonians, like fake medication. This has not in any way jeopardized our prime mission of revenue mobilization for the state. For the first time, we went beyond the 1,000 billion mark in revenue collection. This year, we're expected to collect 1,095.6 billion, and we're all mobilized towards that.
Stakeholders in the execution of public contracts in the West region have saluted the innovation of the government in the digitalization of the public contracts procedure in Cameroon. The actors assert that this initiative will reduce the phenomenon of delay in the award and execution of public contracts. The participants made the observation today at the end of a three-day training workshop of the Cameroon Online E-Procurement System in Bafoussam. Details with Kinge Angela Parr.
The actors recognized that the old system of registering contracts gave room to corrupt practices, which this new system will get rid of.
Dekutobo Valet Dubois, PDG de TV Building and Consulting Sal here in Bafoussam. It will help us to avoid corruption. This app can step down the corruption with the people that treat your file. So your file, you are dropping online, they treat online, and you get the result online.
For others, this online registration process will prevent the phenomenon of files getting missing.
Mohamed Kwam, I am the chief of Monpay Service Company in Baham. This is very important because sometimes when you give your document, they can tell you that some documents are lost, you are going to come.
Workshop attendees, like the Divisional Delegate of Public Contracts for the MENWA, Wiratu Henry, states that the online procedure gives room for the close monitoring of files.
We are controlling the system from the awarding right to the execution. So with this application now, we are sure that whoever you are in Cameroon, online, you are aware of what is going on.
The online registration procedure goes operational in 2025. Kinga Angela Parr, CRTV News, Bafosam.
20 minutes past 5, you're listening to the 5 to 6 p.m. on the national station of the CRTV. Larissa, you have a text from the Prime Minister's office.
C'est un arrêté du Premier ministre chef du gouvernement portant nomination de responsable au secrétariat permanent du Conseil de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et technique. Le Premier ministre chef du gouvernement arrête, article 1er, sont à compter de la date de signature du présent arrêté nommé au poste ci-après au secrétariat permanent du Conseil de l'enseignement supérieure de la recherche scientifique et technique. Chargée d'études numéro 1, Madame Ntama Marie-Caroline, épouse Ongéné, conseiller principal de jeunesse et d'animation, précédemment chargée d'études numéro 4 dans le même secrétariat permanent, en remplacement de Monsieur Assa Eva Jean-Paul, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Chargée d'études numéro 4, Madame Mimfundi Charlotte, cadre contractuel d'administration, précédemment chef de service du suivi des activités académiques des établissements facultaires au ministère de l'Enseignement supérieur, en remplacement de Madame Ntama Marie-Caroline, épouse Ongéné, appelée à d'autres fonctions. Article 2, les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3, le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 1er novembre 2024, signé le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gauthier. Sécurité, le coup de filet des douanes camerounaises. Les Gabolous ont saisi il y a quelques jours une importante cargaison de plus de 3100 munitions de guerre à l'entrée de la ville de Ngaoundiré dans la région de la Damawa. Les services de douane intégrés par le président de la République dans le dispositif de défense et de sécurité nationale en 2020 s'affirment au fil des jours et des ans comme une véritable force paramilitaire au service de l'économie camerounaise. Constance.
C'est une prise salutaire qui fait honneur à la douane camerounaise. 3144 munitions de guerre interceptées dans un bus de transport en commun. La cargaison, destinée sans doute à un projet funeste, était partie de Maroua à l'extrême nord pour la ville de Yaoundé, siège des institutions de la République. Le convoyeur serait un homme en tenue qui avait dissimulé son identité. Heureusement, les services de douane du poste de contrôle de Tchabal à l'entrée de la ville de Ngaoundiré ont su faire preuve d'une grande vigilance et de la fermeté attendue dans tous les postes de contrôle disséminés dans le pays. La douane camerounaise, avec ce coup de filet, montre ainsi sa capacité à participer efficacement à la sécurité du pays. C'est le résultat de la vision du président de la République, Paul Biya, qui avait signé le 8 octobre 2020 une circulaire autorisant le ministre des Finances à ouvrir une réflexion afin d'intégrer la douane dans le dispositif de défense et de sécurité nationale. Ce corps compte aujourd'hui en son sein plus de 4000 éléments formés par des militaires avec une spécialité dans la détection de toute forme de menaces sécuritaires et la saisie des armes et munitions et du matériel de fabrication des engins explosifs improvisés. L'administration des douanes, gendarmes de l'économie nationale, avec un objectif chiffré de plus de 1000 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État en 2024, confirme aussi son rôle de bras séculier dans la défense et la sécurité du pays.
Retour à présent sur les grandes recommandations issues du Conseil de cabinet du mois d'octobre. Conseil de cabinet tenu hier jeudi à l'immeuble Étoile avec un point d'honneur sur les chantiers nécessaires à la mise en œuvre effective du nouveau cadre régissant les archives au Cameroun. Laurentine Bocono.
La nouvelle loi régissant les archives au Cameroun ouvre une nouvelle ère dans la gestion du patrimoine national. La loi du 24 juillet 2024 est élucidée par le ministre des Arts et de la Culture, Bidoung Pat.
Il est nécessaire de relever que cette loi révolutionne le système d'archivage en vue de sa nécessaire adaptation aux exigences contemporaines.
En l'absence d'un système national d'archivage fiable, la souveraineté informationnelle du Cameroun était exposée à des vulnérabilités de toute nature. Aussi, la nouvelle loi ouvre-t-elle une nouvelle ère en introduisant des innovations majeures.
L'une de ces innovations importantes est l'introduction de nouvelles définitions et concepts opératoires du champ sémantique de l'archivage. Le champ lexical inclut désormais toutes les catégories d'archives, y compris les archives électroniques, audiovisuelles, orales et tous les documents sur les supports technologiques innovants. Une autre innovation est l'institution d'un organisme public chargé du système national d'archivage. Cet organisme transversal, aux compétences étendues, aura pour mission principale de centraliser les pratiques archivistiques, d'élaborer des normes et j'en passe. Une autre des innovations majeures est la professionnalisation du secteur et le renforcement du contrôle archivistique. Une autre innovation importante est le financement du système national d'archivage pour soutenir le dispositif des archives en vue d'assurer la viabilité et sa pérennité.
Le Premier ministre, chef du gouvernement, a prescrit la nécessité de s'approprier les textes récemment adoptés par le Parlement. La gestion des archives constitue à cet effet un enjeu essentiel pour appréhender le passé, comprendre le présent et construire un avenir éclairé, a indiqué Joseph Dion Gauté, pour qui les archives sont un outil précieux pour la recherche, l'éducation, la justice, la culture et la sauvegarde du patrimoine national. Immeuble Étoile, Laurentine Bocono, CRTV.
En politique, élection présidentielle de 2025, la Leki renouvelle son appel en vue d'un consensus républicain au niveau national pour la candidature du président Paul Biya. C'est ce qu'il faut retenir de la rencontre élargie de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour la Leki, tenue sous la houlette de son chef, le ministre Henri Eyebéa ici. Landrine Zanga, notre reporter, y était.
En 2021, la Leki l'avait dit haut et fort. Avec le RDPC New Look de 2021, cap sur l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun, avec le candidat président Paul Biya, dans le cadre d'un consensus républicain national. Ce message, qualifié d'appel de la Leki, a été progressivement repris et confirmé depuis lors dans le cadre des différentes motions de déférence et de soutien à l'issue des événements majeurs du parti, tant au niveau des 9 sections de la Leki que sur l'ensemble du territoire national. À travers le lancement de cet autre appel, la Leki politique entière vient proclamer à nouveau qu'elle se tient prête et continue de se mettre en ordre de bataille électorale pour l'échéance du prochain scrutin présidentiel de 2025 avec son candidat naturel et légitime, le président Paul Biya. Par ailleurs, il est question pour la délégation permanente départementale du RDPC de la Leki sous l'égide du ministre Henri Eyebéa ici de renouveler à l'ensemble des militants sa profonde reconnaissance pour l'engagement constant et la disponibilité permanente des uns et des autres en vue du fonctionnement normal et continu des institutions républicaines. Étaient présents à ces assises les responsables des organes de base du RDPC de la Leki, les élites, les élus locaux et les autorités traditionnelles. Le message de solidarité de la Leki sera réitéré le 6 novembre prochain dans le cadre de la célébration de l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya, concepteur et promoteur de la politique du renouveau national.
Et nous reviendrons sur tous les grands rendez-vous relatifs à l'anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya dans quelques instants. Le temps pour nous de signaler que les chrétiens célèbrent ce 1er novembre la solennité de la Toussaint, la fête de tous les saints reconnus et inconnus par l'Église. Si des messes et prières sont dites dans les paroisses, la solennité honore surtout la mémoire des défunts qui ont vécu une vie de foi. Portée symbolique avec Julien Gambi.
Il se dégage toujours chaque 1er novembre, jour de la solennité de la Toussaint, comme un parfum de bonheur et d'espérance. Parfum de bonheur parce que cette fête clôture presque l'année liturgique, tout en projetant le peuple de Dieu aux festivités de fin d'année et de Noël. Et l'espérance ensuite parce que la Toussaint rappelle à la conscience collective que la mort n'est pas la fin, mais le passage à une nouvelle vie éternelle avec Dieu. Comme un devoir de mémoire, l'Église honore et magnifie tous ces saints connus et inconnus, modèles de vie, de foi et de dévotion à Dieu. Eux, ces saints qui ont vécu sur terre, qui exaltent déjà la gloire du Seigneur et qui demeurent des modèles pour les vivants. Comme un pic de rappel pour les vivants à une vie construite sur les valeurs, à la conversion, à la repentance et à une renaissance personnelle. La Toussaint sonne donc comme un appel individuel à la Seigneur. Qu'il est beau le texte sur les béatitudes qui projette déjà l'homme vers la sainteté. Par la Toussaint, c'est finalement la célébration de la vie qui est consacrée, la vie et l'amour, décidément au cœur du message évangélique.
Cérémonie d'hommage professionnel de la Cameroun Radio Télévision au docteur Hassène Godfred, décédé le 2 octobre dernier. C'était cette mi-journée au campus de l'IFCPA à Ikounou, en présence du directeur général adjoint de la CIAR TV, Emmanuel Wangibé, mais également de nombreux collaborateurs et apprenants venus rendre à l'illustre disparu un dernier hommage. Christine Victoria Penda, reportage.
La cérémonie d'hommage professionnel de la Cameroun Radio Television au docteur Hassan Godfrey de regrettée mémoire, décédé le 2 octobre dernier, s'est déroulée en présence du directeur général adjoint Emmanuel Wangibé, de nombreux collaborateurs et apprenants de l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel à Ikounou. Travailleur acharné, encadreur patient, affable, jovial et collaborateur loyal, des qualificatifs qui sont revenus au cours des éloges faits à ce diplômé de l'École de journalisme de Liège en Belgique. Emmanuel Mbédé, directeur de l'IFCPA.
Est-ce que c'est une journée triste pour nous? Le fait de perdre quelqu'un est toujours un peu abstrait, mais là, quand on le retrouve ici, dans cet établissement qu'il a fréquenté pendant de si longues années, qu'il a marqué par sa rigueur et sa discipline, c'est difficile. C'était un parfait second. Il était loyal, il était travailleur, il était en charge de la discipline. Il avait encore 2 années à passer avec nous. Nous aurons bien aimé qu'il passe 2 années avec nous.
Plus tôt, la levée du corps a eu lieu à l'hôpital général de Yaoundé en présence du directeur général Charles Ndongo de la Cameroun Radio Television. Hassan Godfrey sera inhumé ce week-end à Ambélé-Widikoum dans la région du Nord-Ouest.
On a sad note, the mortal remains of 58 years old Dr. Hassan Godfrey, Deputy Director of the CRTV Audiovisual Heritage Conservation Institute, EFCPA, will be laid to rest in his native Ambélé-Widikoum, Momo Division of the Northwest Region. The coffin ceremony took place today at the Yaoundé General Hospital mortuary in the presence of the Director General of CRTV, and his mortal remains conveyed to the EFCPA campus where he served for professional honours. Elizabeth Mbonne-Agbo was amongst the mourners and now reports.
The journey of no return of the seasoned CRTV journalist Dr. Hassan Godfrey, who slept in the Lord on October 2, 2024, commenced at the mortuary of the Yaoundé General Hospital, where dozens of mourners converged to bid him farewell, amongst whom was the Director General of the Cameroon Radio Television, Charles Ndongo. The corpse was later then conveyed to CRTV Audiovisual Heritage Conservation Institute, IFCPA, for professional honours, marked by Requiem Mass and presided at by the Deputy Director General of CRTV, Emmanuel Wangibé, who paid him his last respect. Likewise, the Director Delegate of the institution, Emmanuel Mbédé.
Dr. Hassan Godfrey was a loyal lieutenant for me, a second on command, man who working very hard, strict, and for all the students and colleagues here, his absence, it's left a kind of void, because
We don't have another man like him here on the campus.
Dr. Arsène Gottfried, who served the CRTV for 29 years, held several leadership positions, his last post being the deputy director delegate of IFCPA. The 58-year-old father of five will be laid to rest in his native Ambele in Widiko Momo Division of the Northwest Region.
May his soul rest in peace. We now go over to Ebelova, where all is set ahead of the projection of the documentary film Paul Biya, A Great Statesman with an Extraordinary Destiny, tomorrow, Saturday, November 2. Hours to the event at the Nkovas Municipal Stadium, a conference organized by the Ministry of Arts and Culture on the theme Paul Biya, the Architect of Cameroon and Democracy, is underway in Ebelova this evening. The conference bringing together some astute scholars as panelists, in the likes of the Dean of the Faculty of Law and Political Science of the University of Ebelova, Professor Aboya Manasseh, and moderated by CRTV's ace journalist, Joseph Kemaongba, is being attended, amongst others, by the Governor of the South Region, Felix Ngele Ngele, the President of the South Regional Council, Emmanuel Mve Elemva, and the general public. The final lap of the movie projection in President Paul Biya's region of origin begins at 10 a.m. this Saturday, as is expected to pull a crowd of over 10,000 spectators. Onto this press release, Minister Emmanuel Nganon Jumaisi, head of the standing delegation of the CPDM Central Committee from Bambuto's division, invites all the political leaders of Bambuto's North CPDM section to a major political meeting he will preside over on Saturday, 2nd November 2024 at 10 a.m., according to the schedule program. Also, the minister calls on all the dynamic forces of that division, members of the CPDM Central Committee, senators, parliamentarians, mayors, executives of CPDM, WCPDM, YCPDM sections, traditional rulers, economic operators, elites from localities and around, to personally take part in the operatory or the preparatory meeting of the upcoming celebration of the 42nd anniversary of His Excellency Paul Biya's accession to the Presidency of the Republic, which will take place on Sunday, 3rd November 2024 at 11 a.m. at the party headquarters in Mbuda.
Et toujours dans le cadre du 42e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya, c'est la mobilisation générale dans les sections du RDPC en prélude au 6 novembre. Réunion préparatoire à suivre les 2 et 3 novembre prochains dès 10h précises à la maison du parti de Mbuda. Ce sera sous la houlette du ministre Emmanuel Nganou Djoumessi, chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour le département des Bamboutos. Une autre rencontre similaire est prévue à la maison du parti de Mona Télé le dimanche 3 novembre dès 12h précises sous les auspices du président de la section RDPC Léquier Ouest 1 à Mona Télé, André-Marie Bilégué. Et quant à la célébration proprement dite, un grand meeting de mobilisation derrière le chef de l'État pour le renouvellement de l'appel du département de la Bumba Ngoko et à la candidature du président Paul Biya, président du RDPC, est prévue le mercredi 6 novembre 2024 dès 13h. Ce sera à la place des fêtes de Yokadouma. En perspective, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutou, préside le 1er novembre à l'esplanade de la cour arrière du bâtiment siège du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, la cérémonie commémorative de la 18e édition de la Journée africaine de la jeunesse. Ce sera sous le thème « L'éducation et le développement des compétences en Afrique pour le 21e siècle ». Et puis, un forum sur la paix, la prévention des conflits intercommunautaires et la promotion du vivre ensemble harmonieux dans le maillot d'Anaï est prévu ce même 1er novembre au Centre multifonctionnel de promotion des jeunes départemental du maillot d'Anaï à Yagoua. À la manette, l'Association pour le développement du maillot d'Anaï, en abrégé ADEMADA, avec l'accompagnement de l'UNESCO et d'ONU Femmes. 17h39 minutes, le temps pour nous de parler de MTN Cameroun qui opte pour l'accompagnement digital des PME camerounaises. C'est tout le sens de la 7e édition du MTN Business Academy MBA tenue dans la capitale économique Douala avec la participation de plus de 100 entrepreneurs. Georges-Alain Yango, CRTV Littoral pour d'autres détails.
Apprendre pour grandir, innover pour réussir, c'est le modèle de rentabilité et de prospérité que MTN Cameroun propose à ses nombreux clients issus des PME et autres types d'entreprises. À travers le concept MTN Business Academy, rendu à sa 7e édition, une pêche digitale étendue à une centaine d'entrepreneurs, ses dirigeants d'entreprises, pour une option amélioration de leur performance commerciale.
Astin Galani, directeur réseau distribution de Digicapital. Avoir une bonne éducation financière, c'est la base en fait pour le succès des entreprises. Donc les PME ont besoin d'être outillées sur les bases de ce qui est en fait la bonne gouvernance économique de leur structure, les édifier sur des techniques innovantes de financement.
Thierry Minjos, formateur.
L'intérêt avec les participants, c'était de leur montrer comment ils peuvent faire le marketing en mobilisant tous les outils d'intelligence artificielle et les outils digitaux qui sont aujourd'hui disponibles.
Des modules de formation variés, fort appréciés côté participants.
Stéphanie Pungi, jeune entrepreneur encore embryonnaire. Je me suis bien abreuvée de par la qualité du contenu des enseignements. Je remercie infiniment MTN pour cette initiative parce qu'il n'y a pas que le volet lucratif, mais il y a aussi le volet social. Ils accompagnent les clients, ils accompagnent les entrepreneurs.
Le 7e MBA, c'était également des innovations en termes notamment de plus grande écoute de la clientèle.
Nous avons amélioré le format du MBA et nous écoutons nos clients. C'est le mois de l'expérience client en ce mois d'octobre. Nous avons écouté tout ce que nos précédents participants, qui sont déjà à peu près 1500, ont dit. L'IA, l'intelligence artificielle, devient une problématique centrale dans le développement de l'entreprise. Nous avons souhaité être avant-gardistes en apportant cette compétence aux entreprises.
En attendant l'implémentation de toutes les notions apprises, les clients MTN, exemplaires en matière d'entrepreneuriat digital, ont reçu des diplômes. Douala, Georges-Alain Yango, CRTV.
The Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Futso, will be presiding over the commemorative ceremony of the 18th edition of Africa Youth Day on 1st November 2024 from 11 a.m. at the Esplanade of the Rear Courtyard of Minjek Headquarters Building under the theme Educate and Skill Africa for the 21st Century in order to mobilize youths and stakeholders working in the field of youth supervision to contribute to the attainment of the objectives of the African Union's Agenda 2063. At the initiative of the Mayo Danai Development Association, ADEMADA, with the support of UNESCO and UN Women, the Mayo Danai Senior Divisional Officer, Jean-Lazare Ndongo Ndongo, will preside over the Forum on Peace, the Prevention of Intercommunity Conflicts and the Promotion of Harmonious Coexistence in Mayo Danai on November 1st, 2024, as from 10 a.m. at the Mayo Danai Divisional Multipurpose Youth Empowerment Center in Yagua, so as to contribute to the prevention and peaceful resolution of inter-community conflicts while integrating the issue of floods into the development of the said division. You are listening to the 5 to 6 p.m. The 7th edition of the MTN Business Academy, MBA, aimed at supporting and improving the digital skills of some enterprises as well as their business performances, has taken place in Douala. The event, which is an initiative of MTN Cameroon, brought together more than 100 entrepreneurs of the SMEs who received attestations at the end of the two-day training. Madame Kwele Bezatie tells us more.
MTN Cameroon is more than ever engaged and determined to become the leader in digital solutions for the growth of Cameroon and Africa at large. An evolution made possible with a great contribution of SMEs, an evolution made possible with a great contribution of small and medium-sized enterprises, with some 120 of them who have gained digital skills during the 7th edition of the MTN Business Academy. Franck Gérard Combe is the MTN Business General Manager And Thierry Menjos is an expert.
We believe progress of Africa and Cameroon will go through digitalization and entrepreneurs. That's why we partner with one of the best business schools in country, the ESSE, to give them skills to address the needs they have in competencies.
After listening to the quest of the companies to be trained in several facets, MTN Business Academy this year was characterized by major innovations all geared towards improving the business performance of the participants. Thierry Minjos and Frank Gérard Komo.
We have entrepreneurship, leadership and innovation. We have also one course on finance and accounting for SMEs.
This year we innovated with artificial intelligence, marketing digital and other traditional curriculum. You could have seen the satisfaction from the participants.
The different modules dished out added values to the participants who have expressed satisfaction as they believe the tools gained are necessary for the growth of their various activities. La Benediction Matuke and Ismaela Adegbola were participants.
My life has changed. The way I see things about business, about leadership, and how to handle my enterprise is so different. We've learned how to sustain our businesses.
We thank MTN for giving us entrepreneurial this platform. I really enjoy myself. It's very awesome.
MTN Cameroon awarded the participants and, of course, attestations as the training process continues through the MTN web platform. Madon Kwele Beza, CRTV News, Douala.
Get the latest news in Cameroon, Africa, and the world only on the 5 to 6 p.m.
Thanks for staying with us. We value your decision to listen to the 5 to 6 p.m. on the national station of the CRTV. Cameroon's Prime Minister Joseph Dion Goute has commended the African Petroleum Producers Organization, APO, for creating an energy bank that will fund oil and gas projects in Africa. He saluted the efforts during today in Yaoundé while opening the 46th session of Council of Ministers of the African Petroleum Producers Organization at the behest of President Paul Biya. An opportunity for focus of the day to examine Africa's contribution to the production of petroleum products in the global marketplace and the role played by the African Petroleum Producers Organization in Africa and internationally. An exchange with Toussaint Bem Anya after the break.
Le focus du jour qui revient sur le financement des activités pétrolières par la Banque africaine de l'énergie. Au centre de la 46e session du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africain, pour poser les jalons de la rencontre de ce vendredi, deux réunions de haut niveau ont planché sur l'audit des comptes de l'organisation et l'adoption du budget pour l'exercice 2025. Bon prétexte pour un coup de projecteur sur cette organisation, c'est avec Toussaint Bem Anya dans le focus du jour. Bon après-midi, Toussaint.
Bonjour Larissa. Il faut déjà retenir que l'Organisation des producteurs de pétrole africain a été créée en 1987 et a pour siège aujourd'hui Abuja, c'est au Nigeria. C'est donc une plateforme de coopération et de collaboration, de partage de connaissances et de compétences entre les pays membres, et les domaines d'intervention de l'organisation incluent notamment l'exploration, la production, le raffinage des hydrocarbures, la pétrochimie et même les ressources humaines. Composée actuellement de 18 membres, eh bien cette organisation revendique une production moyenne de 9,92 millions de barils de pétrole par jour, soit près de 99% de la production totale du continent africain. Au-delà donc de l'adoption du plan de travail et du budget pour l'exercice 2025, l'Organisation des producteurs de pétrole africain, eh bien, veut créer une synergie autour des défis de l'industrie avec en bonne place le financement des activités pétrolières. Il faut dire que la création de la Banque africaine de l'énergie va aider certainement les pays producteurs à avoir un plein contrôle sur l'industrie des hydrocarbures et ne plus dépendre forcément des bailleurs de fonds qui, pour leur part, recommandent de ne plus trop investir dans les hydrocarbures, ceci face aux menaces que font peser les produits pétroliers sur l'environnement et même sur le climat.
Et parlons justement de l'environnement et du climat qui semble préoccuper les bailleurs. L'Afrique martèle qu'elle n'est pas un grand pollueur. Et c'est à juste titre, Toussaint. Ses émissions de gaz à effet de serre sont inférieures à 10%. L'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz peuvent dès lors se poursuivre.
Oui, Larissa, l'Afrique n'est pas un grand pollueur de l'environnement. Eh bien, le continent dispose de toute façon d'importantes réserves qui peuvent être exploitées pour financer les besoins de développement du continent. On parle justement de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, précise d'ailleurs que le sous-sol du continent contient encore 125 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole brut et plus de 600 000 milliards de mètres cubes de réserves prouvées de gaz, des réserves pouvant être exploitées au cours des 50 prochaines années et tout à fait garantir le financement des besoins de développement du continent sans plus forcément dépendre des bailleurs de fonds qui, pour leur part, continue à défendre la cause du climat et de l'environnement.
Toussaint Bamanya dans le focus du jour. Parole à présent au secrétaire général de l'Organisation des pays producteurs de pétrole africain, le docteur Omar Farouk Ibrahim, est l'invité du 17-18.
Our guest on the 5 to 6 p.m. this Friday is the Secretary General of the African Petroleum Producers Organization, APO, His Excellency Dr. Omar Farouk Ibrahim. In a chat with Ngu Henry, reveals that the APO meetings in Yaoundé focus on the key challenges in the oil and gas industry. Follow their discussion.
We are going to be discussing essentially three key challenges that face the African oil and gas industry as a result of the energy transition. The first is the issue of funding the oil and gas industry. The second is the technology and manpower of the oil and gas industry. And the third is the issue of markets. In the last nearly 100 years that Africa has been producing oil and gas, it has relied almost completely on outside of Africa for the finances with which to operate the industry. Essentially, Europe, America, now that these countries have decided not to continue to use oil and gas, they have also said that they are not going to invest, particularly in the African continent. At this time, we already have over 125 billion barrels of oil in our subsoil. We have over 600 trillion cubic feet of gas. Confirm, are we going to leave these resources in the ground? Because those that have been giving us the money to exploit it have decided that they are not going to do so.
One of the challenges in the oil and gas industry in Africa is technology.
For the technology, APO came together and said that, look, the same thing with finance. If you go to each African country, the big operators are the international oil companies. Total, Eni, ExxonMobil, Chevron, and so on. We need to master the technology and expertise of the industry. So we brought our SNRTs together, have a forum of CEOs of national oil companies, directors of research and innovation centers, and also a forum for directors of training institutions in oil and gas. Our objective is that in the next 5 to 10 years, we create what we call regional centers of excellence in the oil and gas industry.
And the other is market.
I mentioned that we have 600 million Africans who don't have access to electricity. Nearly 1 billion don't have access to modern energy. Yet, we export out of Africa 75% of the oil that we produce and 45% of the gas that we produce. Now that these countries have decided that in the very near future they will not need your oil or gas, are we going to say, okay, we don't have market, so we stop? No, we have to create the market. And to create the energy market, you have to create energy infrastructure. And that is where the importance of the CAPS, Central Africa Pipeline System, comes in. 11 Central African states, starting from Chad through Cameroon, all the way to Equatorial Guinea, the two Congos, all of them. will constitute the Central Africa pipeline system. And what we are going to do is we do a pipeline for oil, for gas, and for products to link all of these places. And we have depots and terminals across these places so that we can use it to industrialize our economies.
Where are we with the African Energy Bank?
The Africa Energy Bank, the idea came in 2022. And I can tell you proudly that this is the bank that in the history of development banking has been able to move fastest from conceptualization to realization. In less than 2 years, we were able to complete all necessary documents, establishment documents, the charter of the bank. On 3rd of June, we signed these documents between APO and Afriexim Bank. On the 4th of July, 1 month later, a decision was taken on the headquarters of the bank. It's going to be in Abuja, Nigeria. Third, we have also been able to get one of our member countries to sign and ratify the establishment documents. We need only one more country to do it, and then the treaty will be. We have decided that we need 500 million to get started, and we've gotten 50% of that even before we have formally launched the bank.
The Secretary General of the African Petroleum Producers Organization, APU, Dr. Umar Farouk Ibrahim, thanks for being our guest on the 5 to 6 p.m.
Thank you very much.
Le 17-18 se poursuit avec les rendez-vous culturels. Christelle Boujika, bon après-midi.
Bon après-midi, Larissa Ngono.
Sous les feux des projecteurs, ce vendredi soir, André Marie Tala célèbre 55 années de musique.
Le brillant anniversaire donne lieu à un concert dès 20h au Palais des Congrès. André Marie Tala va revisiter quelques tubes d'une discographie qui a engrangé des lauriers partout dans le monde.
Autre anniversaire, Christelle, celui du Festival des Peuples Bafoussam.
Le Nyang Nyang s'ouvre samedi, demain après-midi, dans la cour royale sous l'égide de Sa Majesté Njita Kongompe Pele. Le 459e rendez-vous culturel et coutumier s'ouvrira sur la parade des reines et l'exécution du Mesou, une danse de notabilité.
Je suis Mama Fomontum, reine-mère supérieure Bafoussam. L'ouverture de notre prestigieux Festival Nyang Nyang aura lieu le samedi 2 Ntamze au Palais Royal sur la place du Sim Sengshu par la parade des reines et la danse Mesou qui est une danse des nobles classée dans le rang des Mpum et siège tout l'Ngosa dans la cour de chaque reine fausseur. Cette danse qui est le Mesou se distingue par son authenticité dans ses attributs, les pas de danse, le son du tam-tam et par le message que porte son chant.
Retour à Yaoundé pour annoncer cette fois le spectacle de l'artiste Alex David Longa.
Rendez-vous ce soir, 1er novembre, dès 20h, à l'espace Jack Club de Mélène, non loin de la pharmacie des Sept Collines, à Yaoundé. La soirée artistique est initiée par le Forum des artistes. D'autres précisions avec Alex David Longa.
Mettre en valeur le talent, le génie de tous ceux qui font partie de ce collectif-là. Mais surtout, à la base, il y a cette solidarité du partage de connaissances, partage d'expériences, question de se mettre vraiment ensemble pour mieux faire au lieu d'aller tout seul.
Auteur de 18 albums, il présentera les 9 titres du tout nouveau, le 19e, intitulé « Smart Fusion ».
C'est une fusion de rythme, de texte, fusion de langue, le mangambe, le bikutsi, la musique latino-américaine, les blues. J'essaie de fusionner 3-4 langues, le banganté, le bangwa, l'anglais, le français, des petits mots en ewondo aussi, et en douala.
Alex David Longan, 58 années au service des arts et de la culture et toujours des idées, il prépare l'événement Vision 27.
Il s'agira de faire des clips vidéo de ces albums-là. Il s'agira de tourner un film dont je suis en train de terminer l'écriture et qui est un film de Félix Ndjanja, qui est un écrivain et dramaturge. Nous avons fait cette adaptation-là. Ça va être tourné très très bientôt. L'occasion de ce vendredi nous permettra de mettre des jalons, de programmer le casting et le tournage. Il s'agira également de faire venir mes amis de par le monde qui certains de ces enfants que j'ai formés et qui sont déjà très très grands aujourd'hui. Ça sera une semaine de spectacles, de rencontres, de showcases.
De la littérature au bas de la page culture, l'on annonce, Christelle, la sortie prochaine d'un roman intitulé « Le bal des sept collines ».
C'est toute l'histoire de la ville de Yaoundé, Larissa. L'auteur est Grégoire Nguedi, diplômé en économie, en comptabilité, en administration des entreprises.
Le bal des sept collines parle de l'histoire de Yaoundé, c'est-à-dire de Yaoundé depuis 1800 jusqu'à nos jours. Raconter l'histoire de Tchungimbala, qui est l'ancêtre de Yaoundé, et ses descendants, Issono et Langwa, Bissogo, pour arriver jusqu'à nos jours. J'ai trouvé ça tellement passionnant de romancer cette histoire. Il y a deux jeunes qui s'intéressent à cela et qui retournent dans le passé pour essayer de comprendre qui sommes-nous, d'où on vient, ainsi de suite.
Et c'est l'occasion pour moi de préciser qu'en dehors du roman, vous avez également créé un jeu de société. Exactement. Sur la ville de Yaoundé.
Exactement, Epsom Challenge.
Le bal des sept collines est le sixième ouvrage de Grégoire Nguedi, auteur depuis 2009. Sa bibliographie est composée de, je cite, « Coup de foudre à Bouraka, voyage entre ciel et terre, la destinée de Baliama, les ombres oppressantes, les trois vies de Farah Gomis et le bal des sept collines » dont la dédicace est prévue le 29 novembre à Yaoundé.
Ainsi se referme notre rubrique culture. Christelle Boudjika, bon week-end.
Merci, bonne fin de semaine.
Il nous a retrouvés dans ce studio pour l'actualité des sports. Samuel Billon, bon après-midi.
Bon après-midi, Larissa, mesdames, messieurs, bon après-midi à tous.
Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a inauguré ce vendredi le bâtiment des services de la délégation régionale des sports.
Alors, c'est une visite de travail à double enjeu dans la région de l'Est. D'abord, encourager les pratiques d'une activité physique et sportive par les populations de la région. Le ton a d'ailleurs été donné par une marche sportive populaire ce matin dans les artères de la ville de Berthois, preuve que les populations ont saisi le message, se mouvoir physiquement pour améliorer le bien-être physique et physiologique. Ensuite, le ministre des Sports et de l'Éducation physique est allé donc galvaniser les personnels du sous-secteur sport dans cette région par l'inauguration de la délégation régionale des Sports et de l'Éducation physique de l'Est. Voici d'ailleurs une déclaration du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Nassis Mouelekombi. Il est au micro de Luc Owono, notre correspondant de CRTV Est.
Nous voulons nous réjouir de la forte mobilisation, de l'enthousiasme manifesté par les différentes parties prenantes, les différents acteurs qui témoignent de l'intérêt que les populations de cette ville portent aux activités physiques et sportives en tant que facteur de bien-être, en tant que vecteur du maintien de la préservation du capital santé des populations.
Le président de la République veut pour le Cameroun une administration exemplaire avec des agents exemplaires. Mais cette exemplarité doit pouvoir s'accommoder en relation avec les conditions de travail. D'où la nécessité de la modernisation du cadre de travail et de vie. Il s'agit donc avec la délégation régionale de l'Est, dont le bâtiment vient d'être inauguré, d'une option tendant à promouvoir de bonnes conditions de travail.
That was the Minister of Sports and Physical Education, Professor Nassis Mouelekombi, who is in the East Region to inaugurate a new constructed modern building to host the Delegation of Sports and Physical Education. This was during the 16th edition of the National Physical Education Day, which was launched in Betwa under the theme Physical Education, Guarantor of Optimum Mental Health and a Tool to Fight Against a Sedentary Lifestyle for a Peaceful and Harmonious Society. East correspondent Bennett Akame Ondoa brings us details from CRTV Betwa.
The newly inaugurated building to host the East Regional Delegation for Sports and Physical Education consists of several offices, a conference hall, modern toilets and more, which will accommodate and ameliorate working conditions of workers in the structure. Minister of Sports and Physical Education, Professor Nassis Mouelekombi.
Le président appelle à l'administration de progrès.
The President of the Republic wishes for exemplary administrations as well as workers. This has to fall in line with good working conditions and the need to provide modern structures so that work can be efficient.
L'ouverture, la réception, l'inauguration.
during the inaugural ceremony of the building, which is worth about the sum of 125 million francs CFA, the minister cited some projects which will be renovated as well as others that will be constructed, like the Parcours Vita, which will go a long way to promoting sporting activities in the region as well as meet the head of state's goal of progress and emergence. Local artists and traditional dance groups graced the occasion. Betwa. Beneka Kameondwa, CRTV.
Football à présent, Samuel. Le mois de novembre est plein en activité à la Fédération camerounaise de football, entre matchs des Lions indomptables et réglages de début de saison.
Alors, le comité exécutif du 15 novembre va préparer donc les dossiers de l'Assemblée générale du 16 novembre, qui elle va statuer sur la prochaine saison du championnat MTN Elite 1 et MTN Elite 2. Nombre de clubs, ce sera 16 équipes pour le championnat MTN Elite 1. Règlement du championnat, gestion des dossiers relatifs aux licences des équipes, la question du financement du championnat avec l'exigence, la justification des ressources allouées aux clubs. L'Assemblée générale du 16 novembre va aussi fixer sans doute la date du début de la saison après une trêve de près de 7 mois. Également dans l'agenda communiqué ce vendredi par la fêtière nationale du football, dont la FECAFOOT, il y a ces deux matchs des Lions indomptables contre la Namibie et le Zimbabwe les 13 et 19 novembre pour la fin des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. On le sait, le Cameroun est qualifié, mais les Lions doivent continuer à être indomptables et à faire plaisir à leurs fans par le beau jeu et l'efficacité collective. Innovation cette année, le trophée des champions se joue le 15 novembre au stade militaire de Yaoundé. Le vainqueur de la Coupe du Cameroun et le champion de la Guinée Super League, FC Ebolo, va contre l'équipe football fille. Et puis le trophée des champions, lui, se dispute le 24 novembre au stade de Mbappé-Lépé à Douala. Victoria United, champion du Cameroun, contre Colombe Dudja et Lobo, le détenteur de la Coupe. Enfin, le 30 novembre, ce sera le lancement du championnat national Guinée Super League.
Un mot de volleyball avant de nous séparer. Le tournoi interclub de la zone 4 s'achève ce soir à Brazzaville. L'Ito Team est vainqueur chez les dames et Port joue la finale, messieurs, en ce moment même.
Oui, le match devrait commencer dans les prochaines minutes. Il a été retardé un tout petit peu parce qu'il y a eu coupure d'électricité au gymnase à Brazzaville. Et en début d'après-midi, c'est l'Ito Team qui a remporté le trophée face à GR de la RDC, 3-7 à 0, 25-22, 25-12 et 25-11. Ultra domination de l'Ito Team du Cameroun à ce tournoi triangulaire Cameroun-RDC-Congo, 3 pays, 3 équipes. Will Sogué est l'entraîneur de l'Ito Team volleyball du Cameroun.
Il faudrait commencer par faire preuve d'humilité, de respecter le volleyball congolais, de RDC ou bien du Congo-Brazza. Ça a été, on l'a gagné, mais je pense qu'il faut respecter les équipes. Nous avons effectué un tournoi triangulaire, deux matchs aller, deux matchs retour que nous avons brillamment remporté. Et la finale a croisé le fer contre DGSP. Déjà, c'est un sentiment de joie, d'allégresse qui m'anime au sortir de ce match. Et je pense qu'en termes d'enseignement, c'est un tournoi à titre de préparation pour la suite du championnat du Cameroun. À ce sujet, je suis assez satisfait.
Satisfaction aussi de la participation du Cameroun au championnat d'Afrique de powerlifting en Afrique du Sud. La compétition s'achève ce vendredi et déjà 8 médailles d'or pour nos athlètes qui continuent à rivaliser pour le titre de meilleure nation à ces championnats d'Afrique.
Une bonne nouvelle qui clôture la page des sports. Merci Samuel
B. Bon week-end.
And that's the end of the 5 to 6 p.m. on the CRTV Radio Network, presented by Maureen Wanzi Wilaya and Larissa Ngana, under the supervision of the Editor-in-Chief Serge Fouaske. Thanks for listening and do stay tuned to programs on the CRTV.